Les entonnoirs, les entonnoirs.
C'est-à-dire, pour moi, il n'y a pas grande différence entre ceux que l'on qualifie fous, malades mentaux et les gens bien portants.
Des entonnoirs.
Un électrochoc.
Bonjour à tous.
Bonjour à tous.
Les entonnoirs.
J'ai le trac.
Cette interview, nous l'avons réalisée il y a quelques jours à l'école de journalisme de Lille, et nous avons eu l'occasion d'interviewer donc Denis Robillard, qui est député du Loir-et-Cher, rapporteur de la mission d'intervention parlementaire, initiateur des modifications de la loi relative aux soins sans consentement en psychiatrie du 27 septembre 2013, donc la contrainte. Hein. Et là, voilà, c'est vraiment le sujet, le haut sujet. Et nous allons tout de suite écouter donc Denis Robillard.
Alors, bonsoir Monsieur Robillard.
Bonsoir.
Pouvez-vous vous présenter ?
Oui, Denis Robillard, je suis député du Loir-et-Cher, c'est-à-dire Blois, tout près de Chambord.
Très bien. Ce soir, donc, il y a une soirée emblématique. Pouvez-vous nous en parler un petit peu ?
Ce soir, c'est une soirée sur la santé mentale. Bon, on m'a demandé de parler de la contrainte. Je suis, en tant que député du Loir-et-Cher, j'ai été désigné par la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, à laquelle j'appartiens, pour faire une mission qui s'appelle « Santé mentale et avenir de la psychiatrie », et qui s'est déroulée en deux temps. Il y a d'abord eu ce qu'on appelle des auditions de cadrage, c'est-à-dire que plutôt que de partir avec ses préjugés, on a choisi d'entendre sans poser trop de questions, en tout cas dans les propos liminaires, des usagers, des médecins, et après différentes personnes qui étaient intervenues sur la psychiatrie ou qui avaient une expertise particulière, de façon à déterminer comment on allait cadrer notre travail. C'est pour ça qu'on a appelé ça les auditions de cadrage. On savait aussi qu'il y avait eu une réforme en matière d'hospitalisation sous contrainte, qui était la réforme du 5 juillet 2011, que cette réforme avait été invalidée sur deux de ses aspects, qui étaient ceux des unités pour malades difficiles et la question des irresponsables pénaux, par le Conseil constitutionnel le 20 avril 2012. Et le Conseil constitutionnel avait imparti un délai qui expirait le 1er octobre 2013 pour que sa décision produise effet. Le Conseil constitutionnel, même quand il juge qu'une loi ne respecte pas la Constitution, il peut différer les effets de sa décision à une date déterminée. Bon. Donc on avait à peu près un an pour essayer de modifier la loi. Donc on a dans un premier temps travaillé sur l'hospitalisation sous contrainte, ce que on connaît habituellement sous le nom d'hospitalisation d'office, hospitalisation à la demande d'un tiers, même si la terminologie d'aujourd'hui est différente. Bon. Et donc on a travaillé sur ce sujet-là de façon assez assidue pendant 3 mois, suite à quoi j'ai établi un premier rapport qui portait sur, le titre c'était le contrôle de la contrainte, et dans lequel je proposais à la fois de répondre à ce que disait le Conseil constitutionnel, mais aussi une réforme un peu plus importante du contrôle juridictionnel, et également le rétablissement des permissions de sortie, ou des sorties d'essai, qui avaient été, peut-être sans le vouloir, supprimées par la loi du 5 juillet 2011.
Nathalie, une question ?
Oui. Alors moi, j'aurais une question à vous poser qui me vient tout de suite, justement, à propos de la contrainte. Par exemple, je vais vous présenter un cas de figure. Une personne, par exemple, un voisin qui fait du bruit régulièrement, qui tape dans les murs, qui crie. Et puis bon, des fois, il y a des jours qui passent. Sans qu'il n'y ait rien, et des fois c'est à répétition, et cette personne n'est pas connue des services médico-psychologiques, hein, ni et donc les voisins commencent à s'alarmer et en avoir assez du comportement, parce que par la suite on sait que cette personne est une personne schizophrène qui ne prend pas ses médicaments, qui n'est plus suivie. Donc, dans un cas d'extrême violence, comme il pourrait se produire, par exemple, qu'il tape sur un voisin plus âgé qui ne peut pas réagir face à ça, Vous, en tant que, au niveau du préfet, quelle est la première chose qu'il faut faire dans ce cas-là ? Est-ce qu'il faut appeler la police ? Est-ce qu'il faut appeler les pompiers ? Est-ce qu'il faut appeler les services d'urgence de proximité, on va dire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ?
Là, ça peut être assez compliqué parce que c'est pas parce qu'il y a un comportement qui va entraîner une certaine gêne pour les voisins que, ipso facto, il y a matière à hospitalisation sous contrainte. On sait qu'il faut se supporter entre voisins. Les juristes ont une notion, une théorie qui s'appelle la théorie des troubles anormaux du voisinage. Donc quand on parle des troubles anormaux, c'est qu'il y a des troubles normaux. Et donc il y a un minimum qu'on doit supporter. Bon. Après, il y a aussi des personnes qui ont besoin d'être soignées et qui, parce qu'ils sont malades, ne peuvent pas aller simplement identifier qu'ils sont malades, à aller chez le médecin, et qui ont besoin de secours. Bon. Ouais. Alors, soit ils trouvent dans leur famille quelqu'un qui fait la démarche pour eux, qui les conduit chez un psychiatre, établissement d'un certificat, et puis après on rentre dans un parcours qui est balisé par le code de la santé publique. Il y a ce qu'on appelle une hospitalisation sur la demande d'un tiers. Soit on ne trouve pas cette personne, alors là après ça devient un peu compliqué parce qu'il y a ce que les psychiatres, pas les juristes, mais les psychiatres ont appelé une hospitalisation à la demande d'un tiers sans tiers, basée sur d'une certaine façon la notoriété et l'évidence de la situation. Et puis sinon, c'est effectivement le préfet qui est compétent et qui peut, s'il y a trouble à l'ordre public, mais s'il y a aussi des considérations médicales établies par un certificat qu'il justifie, décider de ce qu'on appelait un placement d'office. Et aujourd'hui, on appelle ça une admission en soins sur décision du préfet. Donc les deux terrains, en tout cas les deux procédures sont ouvertes. Bon, le rôle, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, pour quatre hospitalisations sous contrainte, il y en a trois qui sont décidées à la demande d'un tiers par le directeur d'établissement, et il y en a une qui est décidée par le préfet. Trois quarts, un quart. Donc il ne faudrait pas que les décisions préfectorales viennent cacher les autres. Ensuite, le préfet, depuis la loi du 5 juillet 2011, la décision fera l'objet d'un contrôle juridictionnel systématique, puisque c'est à partir du moment où il y aurait une hospitalisation. Alors d'abord, c'est pas parce qu'on va aller voir le médecin qu'il va y avoir une hospitalisation. Je crois que peut-être. Alors moi, je suis député, je suis pas médecin.
D'accord.
Ça me paraît très important de le dire. Un député, c'est quoi ? Un député, c'est un citoyen qui est payé par les autres citoyens pour faire à plein temps le travail de citoyen. C'est pas autre chose. Bon, après, évidemment, ça passe par la politique, les partis, tout ce que vous voulez, mais fondamentalement, c'est ça, ce rapport-là. Et donc, je regarde la façon dont ça se passe de ce point de vue, qui est un peu un point de vue un peu naïf, celui qui n'est pas un professionnel, qui n'est pas un expert, mais que ses concitoyens ont chargé de faire la loi, pour voir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, et quels sont les cadres qui permettent à chacun d'avoir toute la liberté maximale. Mais c'est vrai que des fois, dans son intérêt propre, il est nécessaire d'avoir des restrictions à sa liberté. Et donc le travail du législateur à ce moment-là, c'est d'essayer de protéger la liberté, mais en permettant aussi à une personne qui a besoin d'être soignée et dont la situation ne lui permet pas de demander elle-même les soins, d'être quand même soignée.
C'est toujours la même par rapport à cette question-là. Mais quand on n'a personne, justement, parce que moi j'ai assisté justement à un événement comme ça, c'était une personne qui était... C'était une voisine, en fait, qui était aussi... qui faisait du bruit tout le temps. Un comportement qui était bizarre, mais c'était tous les jours. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai frappé à sa porte. Et donc, j'ai vu qu'elle était dans un état qui n'était pas très bon. Donc, j'ai appelé la police. Donc, la police m'a dit, nous, on n'est pas là pour ça. Moi, je vous répète textuellement ce qu'ils disent. Alors, je dis, moi, qu'est-ce que je dois faire? Je suis tout seul. Qu'est-ce que je fais contre cette personne qui a besoin d'aide? Je fais comment? Donc, de ce fait-là, j'ai dû, par mon initiative, j'ai appelé la SAMU. Mais la police n'a pas fait son rôle de... Je sais pas. Ne m'a pas dit ce qu'il fallait faire. Ne m'a pas aidé. On est ce que je veux dire ou pas, c'est pas...
Est-ce que dans ce cas-là, il y a un non-assistance à personne en danger par rapport à la police, de la façon qu'elle a réagi?
D'abord, c'est compliqué pour la police, parce que si la police intervient, on va lui dire, mais de quel droit? C'est pas parce que... Enfin, les policiers n'ont pas tous les droits en France, et heureusement. C'est-à-dire qu'il faut que soit il y ait eu une infraction. Et encore, même quand il y a une infraction, pour que la police puisse intervenir dans un domicile, il y a certaines conditions. D'ailleurs, on ne peut pas intervenir avant 6h du matin et après 21h. On peut pas... et puis, il y a ce qu'on appelle la notion de flagrance, c'est-à-dire que l'infraction soit commise depuis moins de 15 jours. Sinon, il faut une autorisation judiciaire. Donc un juge indépendant, impartial, qui donne l'autorisation, donc un juge d'instruction le plus souvent. Ou aujourd'hui, un juge des libertés et de la détention, qui va donner les autorisations nécessaires. Bon. Donc, le policier, il peut être conscient qu'il y a une difficulté. Souvent, ils interviennent sur ces problèmes-là. C'est quand même, quand vous appelez le 17, on est en police secours, il y a un problème de tapage, nocturne, des fois diurne. La police, souvent, intervient. Ça peut se passer sans qu'il y ait le moins de problèmes de santé mentale. Il y a un couple où ça va mal, ça crie dans tous les sens, et puis il y a des coups. Bon, la police intervient. Après, la police, elle est pas, voilà, c'est pas des médecins. Donc, ce qu'ils peuvent vous dire, oui, ce qu'ils devraient pouvoir vous dire, mais encore faut-il que les policiers le sachent, c'est qu'elles sont à qui s'adresser. Donc là, après, je pense que c'est aussi dans le cadre du secteur. Vous savez que la psychiatrie, elle est organisée en tant que secteur, qu'il peut y avoir également des échanges d'informations entre policiers et psychiatres sur comment, dans ces situations-là, on réfléchit ensemble comment on s'y prend, parce que c'est pas simple. Oui, voilà. Comment on s'y prend pour que chacun ait l'information et puis que la personne qui a besoin de soins, je pense que c'est ça, fondamentalement, qui doit être travaillé, puisse être dirigé. Et des fois, il faudra l'aider à se diriger vers les soins qui lui sont nécessaires.
Alors, moi, je voudrais savoir, est-ce que les contraintes de soins font partie de votre projet de réforme? Une personne, par exemple, qui est contrainte par le préfet de se soigner, par exemple, est-ce que ça fait partie de votre réforme? Est-ce qu'il y a des choses à recadrer par rapport à cela?
Alors, est-ce qu'il y a des choses à recadrer? Moi, ce qu'on peut dire, c'est que, en ce qui concerne l'hospitalisation sous contrainte, donc on est bien, parce que dans l'immense majorité des cas, les soins sont donnés sans contrainte. Oui, enfin, il peut y avoir des hospitalisations libres. Bon, après, la façon dont ça se passe à l'hôpital, il y a dans la liberté des degrés. Bon, mais est-ce que, si on revient sur l'hospitalisation sous contrainte, on peut faire un tout petit peu d'histoire, parce qu'en fait, ça tient à quelques dates. Il y a une loi qui est immensément connue, qui est la loi de 1838. Et puis après, il faut attendre. Alors on dit souvent que c'est 1990 pour arriver à la notion d'hospitalisation sous contrainte. Entre-temps, il y a eu une loi du 2 février 1981 qui s'appelle la loi Sécurité et Liberté, qui était une loi liberticide, mais qui, dans son ensemble liberticide, avait un élément intéressant qui disait que quand il y avait une procédure de mal-levée, c'est-à-dire quand un patient qui était hospitalisé contre son gré sollicitait du juge qu'il ordonne la mal-levée de son placement, parce qu'à l'époque on parlait de placement, ou même d'internement, et bien que ça se passe ce qu'on appelle en la forme des référés, c'est-à-dire devant un juge unique, qui à l'époque était le président du tribunal, et qui procédait de façon contradictoire. C'est-à-dire que le patient était traité comme une partie à la procédure, et qu'il était reconnu comme un citoyen, comme un sujet de droit. Et ça, c'était une grande nouveauté. 1981, 2 février. Et après, on tombe en 1990. Et puis, comme vous le savez, la loi du 5 juillet 2011. Et c'est vrai que nous avons, au Parlement, été amenés à réintervenir sur cette loi très rapidement, puisque la loi dont j'ai porté la proposition, puis après j'ai été rapporteur de ma proposition, a été publiée au Journal officiel, ou promulguée plus exactement, le 27 septembre. Je crois qu'elle a été publiée au Journal officiel le 29. Bon. Pourquoi cette grande accélération? La loi du 5 juillet, elle a, de mon point de vue, dans la façon dont je la comprends, trois mères. Une première mère qui est une mère sécuritaire. C'est ce que tout le monde a reconnu, a retenu plus exactement. C'est la suite du discours de Nicolas Sarkozy et Anthony, qui était un discours extrêmement sécuritaire, extrêmement stigmatisant pour les psychiatres et pour les malades mentaux. Ou pour les personnes ayant des troubles psychiques. Bon. Il y avait une deuxième composante dans cette loi, qui était une composante de santé publique, qui était le souci de la continuité des soins. C'est-à-dire que la personne qui ne reste, enfin, qui a un temps été hospitalisée, qui rentre chez elle, ou qui passe dans un autre cadre, qui n'est plus strictement hospitalier, puisse continuer à suivre ses soins. C'est ce qu'on a appelé le programme de soins. Avec cette notion que c'était un programme obligatoire. C'est-à-dire que le patient est obligé, il est juridiquement contraint à suivre ses soins, bien qu'il ne soit pas à l'hôpital.
Est-ce que je vous dis ?
Ça, c'était la notion de programme de soins. Bon. Le Conseil constitutionnel, quand il aura lu cette loi, il va dire non, ce n'est pas des soins sous contrainte, parce qu'on ne peut pas recourir à la force. Autrement dit, c'est une obligation, mais la sanction, c'est que s'il y a besoin d'une vraie contrainte, il faut passer à l'hospitalisation complète. C'est la lecture que fait le Conseil constitutionnel dans sa décision du 20 avril 2012. Et puis, la troisième mère de cette loi, donc c'est une mère de sécurité, sécuritaire, une conception de la santé publique. C'était très clairement une loi, enfin, cette dimension de la loi était portée par le ministère de la Santé. Et on peut trouver un rapport de l'IGAS qui s'explique à ce propos-là. C'était très soutenu par l'UNAFAM. Vous connaissez l'importance. Bon. Et puis la troisième disposition, c'était une préoccupation de liberté. C'est-à-dire que alors que le texte était en discussion, le Conseil constitutionnel, en novembre 2010, décide qu'il ne peut pas y avoir d'hospitalisation sous contrainte sans que dans les 15 jours, un magistrat soit amené à vérifier la décision qui a été prise, à statuer sur cette décision. Et puis il dit, le Conseil constitutionnel, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il décide de la date à laquelle sa décision s'applique. Donc il prend sa décision au mois de novembre et il dit que ça s'applique le 1er août 2011. Ce qui vous explique que le Parlement ait accéléré la cadence pour, avec une loi qui a été publiée le 5 juillet 2011. Les décrets d'application sont sortis de mémoire le 27 juillet et c'est rentré en application le 1er août. Bon. Ce qui pour les juges était... Pour les juges et les psychiatres, c'était pas simple. Hein. Mmh. Parce que, comme vous le savez, en France, entre juillet et août, tout le monde n'est pas au travail. La loi, elle est très difficile à lire. Enfin, moi, je suis juriste de profession. Mais je vous assure que la complexité, enfin, la façon dont c'est écrit, ce n'est vraiment, enfin, c'est très technique, c'est des références sans cesse à différents articles, etc. Donc il faut passer beaucoup de temps pour la lire, y compris la proposition de loi que j'ai faite en lien avec le ministère de la Santé. Je la trouve extrêmement technique. Simplement, on n'avait pas le temps de tout réécrire, de tout remettre à plat. Et puis des fois, il faut pas trop en faire parce que intervenir à chaud sur une loi, c'est pas forcément bon, parce qu'elle a pas fait ses preuves, la loi, parce qu'on sait pas encore exactement comment la comprendre. Ça, c'est ce qu'on appelle la jurisprudence, c'est-à-dire les juges qui appliquent la loi, qui rendent des décisions. Et il faut, pour qu'une loi soit à peu près stabilisée, en général une dizaine d'années. Là, vous vous rendez compte, loi du 5 juillet, et nous, on a dit, ma proposition, je l'ai déposée en juillet 2000. J'ai dû la déposer le 5 juillet 2013, donc juste 2 ans plus tard. Et on a travaillé dessus au mois de juillet à l'Assemblée et au mois de septembre au Sénat. Donc ça a été extrêmement vite. Bon, j'espère que j'ai répondu à peu près à la question.
Ahmed, comment elle a été reçue par l'ensemble de la profession et notamment des familles? Cette loi, visiblement, les familles avaient une demande précise, celle justement de protéger leurs proches, donc avec les programmes de soins notamment. Et vis-à-vis de la profession psychiatre, etc., actuellement, comment elle est vécue? Est-ce que vous avez des retours, etc., que ce n'est pas trop compliqué?
Je crois qu'elle a été vécue de deux façons. Il y a des éléments de satisfaction, il y a des éléments d'insatisfaction. Les éléments de satisfaction, c'est très clairement rompu avec la logique sécuritaire et avec le discours qui était celui qui accompagnait cette loi, le discours d'Anthony. Ça, il me semble que la rupture était claire et nette. Ensuite, on s'est réjoui du rétablissement des sorties d'essai. On a modifié les modalités du contrôle juridictionnel. C'est d'ailleurs, pour l'essentiel, ça ne rentrera en application que le 1er septembre 2014, pour qu'on ne refasse pas ce qui avait dû être fait en l'espace de quelques jours en 2011, c'est-à-dire que le ministère de la Justice, les magistrats, puissent trouver le temps nécessaire. Mais aujourd'hui, le contrôle juridictionnel, les audiences, auront lieu, par principe, à l'hôpital. On pense que c'est mieux pour ce qui, pour un juge, est injusticiable, avant d'être un patient, pour son médecin, que c'est un patient. Et pour l'avocat, ça restera un client. Hein. Il y aura un avocat systématiquement. Bon. Alors qu'actuellement, il n'est légalement obligatoire que si le patient ne peut pas se déplacer et qu'il y a un certificat médical qui l'atteste. Bon. Voilà. Et puis, il y a également le fait que si la personne le demande, ou son avocat, l'audience aura lieu à huis clos, alors qu'actuellement, c'est une audience publique. Alors, l'audience publique, quand on dit qu'on fait l'objet d'un internement arbitraire, c'est important que ce soit public, pour que la presse puisse être là. Parce que c'est le contrôle de la justice et la publicité, c'est une façon d'assurer la liberté. Mais dans l'immense majorité des cas, on n'est pas dans cette situation-là. Hein, on est sur une discussion de comprendre quelle est la situation de la personne, de regarder si la procédure a été respectée. Des fois, on discute du dossier médical, en tout cas du contenu médical, des décisions qui ont été prises. Le secret médical, il doit être respecté. Donc ça ne se fait pas devant les autres personnes qui sont dans la même situation et qui sont dans le même hôpital. La confidentialité, ce qu'on appelle une audience en chambre du conseil, comme dans les affaires de famille, nous paraissait préférable. Puis on a également supprimé la visioconférence. Ça, c'est le Sénat qui l'a fait. Moi, je l'avais considérablement diminué, enfin, en tout cas, dans la possibilité d'y recourir. Le Sénat l'a carrément supprimé. Je pense que c'est d'ailleurs une bonne décision, même si ça posera des problèmes quand il y a un hôpital psychiatrique qui se trouve en pleine montagne et en plein hiver. Bon. Mais bon, c'est quand même des situations relativement marginales.
Donc, poser la dernière question, officiellement, la loi va rentrer en vigueur en 2014. Pour qu'elle soit appliquée, j'entends.
La loi, elle est déjà entrée en vigueur pour toute une série de ses dispositions. Mm-hmm. Mais en revanche, les dispositions sur le contrôle juridictionnel, en tout cas celles qui obligent les juges à tenir leur audience non plus au palais de justice, mais dans les hôpitaux, là, pour le coup, c'est différé au 1er septembre 2014 pour qu'il puisse y avoir une organisation. Par ailleurs, on a prévu que les modalités selon lesquelles ces audiences seraient tenues feraient l'objet d'un accord entre le président du tribunal de grande instance et le directeur de l'ARS. Mm-hmm. Il s'agit d'être très clair, c'est-à-dire que quand l'audience se tient, même si ça se tient à l'hôpital, on est sous contrôle de la justice. C'est-à-dire qu'il faut que la salle corresponde à des caractéristiques qui sont d'ordre judiciaire, qu'on puisse y avoir accès, que ce soit balisé, fléché, qu'il y a une salle qui permette ce qu'on appelle le contradictoire, une place pour chacun, que les choses soient claires, qui est le juge. Vous voyez, tout ça, ça suppose une organisation. Et donc, il fallait un peu de temps. Et puis, par ailleurs, du point de vue du ministère de la Justice, il fallait aussi peut-être redéployer certains moyens et donc se donner le temps de le redéployer. Hein.
Voilà. Monsieur le député, on vous remercie. Hein, on vous souhaite un excellent débat et une bonne conférence. Voilà. Merci beaucoup. On vous fait signer notre livre d'or. Voilà. Merci beaucoup.